Vous avez des idées? Qu'est-ce qui fait une belle, qu'une histoire est belle?
Quelle est vraie?
Ça, c'était ma question d'après. Je voulais poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est vraie? Alors, bon, une belle histoire, c'est une histoire vraie, ouais.
Qui se termine bien.
Qui se termine bien, oui. Ça, c'est important, la belle histoire. Si ça se termine pas bien, ça laisse un petit goût, ouais. Une histoire avec une belle fin. Moi, j'avais noté ça. Oui, de l'émotion dedans, de la vie. On y est, hein. On s'identifie facilement à cette histoire-là. Ouais.
Ça dépend des lecteurs.
Il faut qu'elle soit bien racontée. Voilà.
Ça dépend des rapporteurs, mais aussi des auditeurs. Sur la beauté. C'est vaste, la beauté.
Oui.
Le spectacle.
Oui.
Je veux dire, l'action. Peut-être les jeunes dames aiment plutôt la tranquillité.
Oui, bon, ça dépend, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. J'avais noté également qu'une belle histoire, elle va être enrichissante, c'est-à-dire elle va nous apporter quelque chose. On va, après l'histoire, repartir avec quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et on va être enrichi ou on va être rafraîchi comme un verre d'eau fraîche quand on a soif. Les histoires, ça fait tout ça, hein. Ça va nous faire passer. On va garder ça dans notre tête et dans notre cœur, et on va passer une bonne fin de journée. Alors, c'est vrai qu'il faut que ce soit une histoire vraie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est vraie? C'est qu'elle est historique, peut-être, ou là, on est moins dans les choses qui font rêver, mais quand l'histoire est vraie, vraiment, ça a une toute autre dimension. Hein, ça a une toute autre dimension. Et donc, l'histoire de ce matin, donc, on va contempler une belle histoire vraie. Donc, celle de deux annonces enthousiasmantes. Je vais avoir du mal à prononcer ce mot. Deux annonces enthousiasmantes. Et donc la lecture sera dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 1, tout à fait au début du livre de Luc. Donc vous pouvez retrouver ce livre et je vais en faire la lecture à haute voix. J'espère que je vais faire une lecture intéressante qui rende cette histoire vivante. Donc je suis dans la version traduction seconde, conventionnelle, qu'on connaît bien. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et l'histoire commence. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était une d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, appelé à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et il se tint debout, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, et il leur faisait des signes. Et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. » quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. Toi qui as une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée la stérile allait dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Jusqu'ici, notre récit. Alors, Luc s'attache premièrement à nous assurer que cette histoire est vraie. Parce qu'il y a eu des témoins, et beaucoup de témoins. Dans les premiers temps, l'histoire de Jésus était diffusée par ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait même touché. On les appelait les apôtres, au sens large. Il y avait les 70 que Jésus avait envoyés. Et puis il y avait tout ce qu'il avait vu quand il était, quand il s'était élevé dans le ciel et qu'il avait donné le grand commandement. Alors, le ministère de la parole dont il est question devait essentiellement, du moins pour une bonne part, consister à répéter inlassablement l'histoire de Jésus, à répéter ce qu'avait été sa vie, son enseignement, sa mort, sa résurrection, sa royauté, ses promesses, inlassablement, répéter cette bonne nouvelle. Et le nombre de témoins était si important que ce ne pouvait pas être là une histoire inventée, une fantaisie ou quelque chose qui serait sorti de l'esprit de Nabil écrivain, comme le font les romans, pas du tout. Une multitude des témoins avaient vu Jésus-Christ ressuscité. Plus de 500, nous dit l'apôtre Paul. Et puis il y a eu des témoins, il y a eu des écrits. Luc parle que beaucoup se sont mis à écrire l'histoire de Jésus. C'était pas le premier, mais il voulait prendre la suite. On peut imaginer que peut-être au début, les textes écrits, ça n'était pas rencontrait pas un grand succès parce que c'était tellement mieux d'entendre ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vécu avec lui. C'était quand même autre chose que de lire une lettre ou un ouvrage. Mais ces personnes-là n'ont pas été toujours là. Et les écrits se sont trouvés très précieux et donc Luc a compris qu'il y avait un travail à faire. Mettre en ordre un bon récit, bien structuré, bien écrit, bien documenté, avec l'histoire dans son ordre chronologique. Et c'est le travail qu'il nous propose et c'est l'histoire qu'il nous propose à lire. Et nous l'avons lu ensemble, le début du moins, l'introduction. On peut rappeler ici que les écrits du Nouveau Testament sont les écrits les plus sûrs de l'Antiquité. Il y a des milliers de parchemins dans la langue originale que Luc dans le grec que Luc a utilisé, qui ont été recopiés par les copistes jusqu'au moment, à l'époque de Gutenberg. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, on a des manuscrits qui sont très, 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 très anciens. Très anciens. Une histoire vraie. Une histoire aussi incroyable. Regardons les personnages. Premier personnage est celui qui a la place d'honneur, c'est le Seigneur, le Dieu vivant. Le président de l'univers, on dirait aujourd'hui, dans notre langage contemporain, le Très-Haut. Celui qui a les pleins pouvoirs. Il est question du Saint-Esprit. Et il est question du Fils de Dieu, Jésus, la Trinité. Une histoire incroyable. Avec des anges, Dieu envoie son ange, et pas n'importe lequel, l'ange Gabriel, celui qui avait été à la rencontre de Daniel plus de 5 siècles auparavant. On pourrait dire, dans le langage familier, que Dieu, il avait mis les paquets pour préparer l'incarnation de son Fils. Et parce qu'il y a très peu d'interventions des anges dans la Bible, si on met mis à part celui qui s'appelle l'ange de l'Éternel, il y a eu au moins cette très longue période de 400 ans où Dieu ne s'était pas manifesté. Et là, il y a les anges, et pas n'importe lequel. Il y a des miracles. Zacharie va subitement devenir muet, brusquement. Élisabeth, qui était stérile, va connaître enfin la maternité. Et Marie va se trouver enceinte alors qu'elle n'a jamais eu de relations sexuelles. Des miracles. Une histoire incroyable, peut-être, mais une histoire avec des croyants, justement. Ce qui fait que cette histoire est incroyable, c'est qu'il y a personne qui la croit. Il y a des croyants. Élisabeth et Zacharie sont tous deux des personnes pieuses qui croient en Dieu. La foule est là aussi devant le temple, en prière au moment de l'offrande du parfum, des croyants, des personnes qui croient ce que Dieu dit. Et on voit que Marie accepte sans condition la volonté de Dieu pour sa vie. Des personnes qui ont la foi dans leur Dieu, dans le Dieu d'Israël à ce moment-là. Une histoire incroyable, mais une histoire proche de nous tous. Qu'est-ce qui est magnifique dans cette histoire? C'est que on retrouve là toutes les générations. Il y a les vieux, hein, Zacharie et Élisabeth. On ne sait pas exactement l'âge qu'ils avaient, c'est pas précisé, mais ils étaient avancés en âge, ils étaient vieux, ils avaient les cheveux blancs. Et puis il y a les jeunes, la génération d'après. Il n'est pas possible là non plus de donner un âge précis à Marie, ce n'est pas précisé, mais on sait qu'elle est jeune. Elle est, c'est encore une jeune fille, une jeune femme, plutôt. Et puis il y a les tout petits, la génération d'après qui n'est pas encore née, mais qui est un embryon dans le sein des mamans qui les portent. Et puis si vous ne trouvez pas votre place, il y a la foule en prière où chacun là peut trouver sa place. Chacun peut dire ah ouais, moi je pourrais être dans cette foule, en prière. Une histoire pour toutes les générations. Et ce sont des hommes et des femmes comme aujourd'hui. Zacharie était un homme au parcours remarquable, mais on le voit ici, il rate la dernière marche. Hein. Il trébuche sur la ligne d'arrivée. Oh, trop dommage. Au dernier moment, il n'a pas la foi que l'ange attendait. Il devait simplement croire et louer Dieu pour le bébé qui avait l'arrivée, et puis là, il dit, à quoi je vais connaître ça? Ah ben, il va le connaître, il va devenir muet. Là, il aura un bon signe pour lui. Il voulait un signe, il en aura un. Hein. Chaque jour, il va s'en souvenir de ce signe que lui a donné l'ange parce qu'il n'avait pas cru, tout simplement. Élisabeth, une femme qui a vécu des années avec la honte de ne pas avoir d'enfant. Combien de femmes peuvent vivre ce drame aujourd'hui dans leur vie. Et on peut imaginer le bouleversement émotionnel que va représenter cette grossesse tardive. Et qu'est-ce qu'elle fait, Élisabeth? Elle se cache. Pendant 5 mois, elle reste chez elle, on la voit plus, nous dit le texte. Hein? Bon, on va voir la suite, vous connaissez la suite, il y a Marie qui va aller la voir. Mais elle se cache. Elle se cache. On pourrait nous penser, mais au contraire, elle va sortir et montrer, voilà ce que Dieu m'a fait, c'est formidable. Non, elle se cache. Et puis il y a Marie, une jeune femme de condition très modeste. Alors notre culture la représente jeune et jolie, mais on n'en sait rien du tout, en fait. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle était vierge, qu'elle était fiancée et qu'elle était humble. C'était une femme humble. Et cette jeune femme va avoir la vie complètement bouleversée. Alors ces hommes et ces femmes sont neuvrés avec leurs points forts et leurs points faibles. Et on peut se sentir proche d'eux. Une histoire enthousiasmante. Une histoire enthousiasmante. Parce qu'au départ, la situation est difficile. Hein? Zacharie et Élisabeth sont vieux. Ils n'ont pas d'enfants. Élisabeth est stérile. Il y a quelque chose qui pèse sur eux comme ça. Et puis arrive un joyeux bouleversement. Ça commence par Zacharie qui est désigné par le sort pour aller offrir le parfum dans le temple. C'était une marque de distinction et d'honneur. Comment se passaient les classes? Il y avait 24 classes de sacrificateurs, ça avait été organisé par David à l'époque. 24 groupes, on peut dire 24 familles, qui servaient Dieu 8 jours, 2 fois 8 jours par an. Et donc, cela faisait pas beaucoup de temps de service dans l'année, pas beaucoup de jours dans l'année, et puis ils étaient nombreux, et qui allait pour savoir qui allait apporter le parfum, ben c'était un tirage au sort, et le sort est tombé sur Zacharie. Vous avez certainement vu des représentations du tabernacle, et le temple de Salomon avait été construit sur le même principe, et certainement le temple d'Hérode aussi. Il y avait un lieu saint dans le temple et le lieu très saint dans le tabernacle, et c'était séparé par un rideau, et le lieu très saint était là où il y avait l'arche du témoignage, et au niveau du propitiatoire de cette arche, c'était là où Dieu résidait au milieu de son peuple. Et donc, juste devant le rideau, de l'autre côté dans le lieu saint, il y avait juste là l'autel des parfums. C'était l'endroit qui était le plus proche de l'arche de l'Alliance. C'était l'endroit qui était le plus proche de la présence de Dieu. Et offrir le parfum, c'était l'occasion de s'approcher vraiment de Dieu pour lui. Et ces parfums représentaient toutes les prières du peuple qui était en prière juste à côté. Zacharie avait été tiré au sort. Et puis, sa prière est exaucée. Encore une joyeuse nouvelle. Est-ce que la prière concernait uniquement à être papa, qu'il soit Élisabeth et Zacharie soit papa et maman et papa? Est-ce que c'est une prière pour la venue du Messie? En tout cas, l'enfant qu'ils auront, autre bonne nouvelle, sera un sujet de joie. Quand on a un enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il y a des enfants qui sont des fois des sujets de peine pour leurs parents. Et ils vont beaucoup prier pour eux, et parce qu'ils ils vont pas les honorer, ou ils vont pas prendre un bon chemin. Mais là, cet enfant, ce sera un sujet de joie, de très grande joie pour ses parents. Voilà ce qu'annonce l'ange. Alors vraiment, un joyeux bouleversement. C'est une histoire très enthousiasmante. Mais le sujet d'enthousiasme les plus forts sont ailleurs. Ils sont dans les annonces, je pense. Car, en ce qui concerne Jean, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'histoire biblique reprend son cours. L'ange cite Malachie, chapitre 4, verset 5, les toutes dernières paroles qu'un prophète de l'Ancien Testament ait prononcées sont reprises ici par l'ange. Tout juste avant le Nouveau Testament, dans l'histoire de Matthieu, vous trouverez ces versets, cette prophétie de Malachie. Je vais la relire parce que c'est une histoire vraie. Verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes, des ordonnances. » On a vu que c'était ce que s'attachaient Zacharie et Élisabeth. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frappé le pays d'interdit. Et ça y est, l'histoire biblique se remet en marche après 400 ans de silence. Le Messie arrive enfin. Des choses concrètes vont changer. Enfin, il va y avoir des retours vers Dieu, des grands mouvements de repentance. La puissance de Dieu va se manifester. Il est question d'Élie, le prophète. Vous savez, il est connu pour avoir prié et il pleuvait pas. Il priait et la pluie tombait. Il est connu pour avoir prié et le feu du ciel était descendu sur l'offrande qu'il avait préparée. Mais ici, Dieu va réaliser par le fils de Zacharie, Jean, quelque chose d'encore plus géant que cela. Il va ramener le cœur des pères vers les enfants. De quel père il s'agit ? Il s'agit pas de la génération, je crois, de Marie, des parents qui avaient des petits-enfants. Non, il s'agit de la génération de Zacharie et d'Élisabeth, ceux qui ont déjà des grands-enfants. Il y a, vous savez, beaucoup de familles qui sont brisées, beaucoup de problèmes dans les familles. La Bible pointe ici le doigt pour réparer ce problème. Le cœur des pères qui ne reflète pas le cœur de Dieu. Le cœur des papas qui ne reflète pas le cœur de Dieu le Père. Et là, il y avait quelque chose que Jean-Baptiste allait faire avec la puissance de Dieu. Il allait ramener le cœur des pères vers les enfants. Ramener les rebelles au Seigneur. Qui ne connaît pas de rebelles. Dans notre société ici, il y a plein de rebelles. C'est vraiment un signe de notre temps. Et on constate aussi que l'image des hommes n'a jamais été, du moins moi depuis que je suis né, je suis pas très vieux, mais l'image des hommes est vraiment se dégrade de plus en plus, est vraiment négative en ce moment. Et il y a un ordre ici, soigner le cœur des pères et restaurer leur image pour ensuite ramener les fils rebelles dans la sagesse. Alors, derrière, bien sûr, vous avez pensé peut-être comme moi à l'histoire du fils prodigue, hein, l'histoire de ce père qui ouvre grand les bras pour recevoir et accueillir ses fils et ses filles rebelles à lui qui s'étaient éloignés. Mais on est là déjà dans la deuxième annonce enthousiasmante. La deuxième annonce enthousiasmante. Le fils de Marie, Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Le fils de Marie n'a pas de père humain. Quelque chose de unique depuis les temps de Adam et Ève. C'est ici que les femmes en général et les mamans en particulier sont mises à l'honneur. Depuis le commencement, on connaît l'histoire et la promesse. Il est écrit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, celui qui l'a séduit. la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le péché est entré dans le monde par Adam, et c'est Adam et non pas Ève qui transmet la nature pécheresse à sa descendance, dont nous faisons partie. Mais l'enfant de Marie, lui, échappera à cela et sera parfait. Il sera le Fils de Dieu. Il ne aura pas la nature pécheresse qui fait le commun de tous les humains. Alors ça c'est extraordinaire. Un immense espoir. Le fils de Marie s'appellera Jésus. On l'appellera fils de Dieu. Il sera grand, dit l'Écriture. J'aime particulièrement un texte qui parle de la grandeur de Jésus. Ésaïe en a parlé dans ses chants quand il parlait du serviteur de l'Éternel. Le deuxième mention, c'est Ésaïe chapitre 49. C'est tellement joli, beau que je vais pas m'empêcher de vous le lire. Il, écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. C'est de nous qu'il s'agit. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Jésus sera grand. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Le Fils de Dieu allait être le sauveur du monde. Le Fils de Marie. Le Fils de Marie sera aussi le Fils de David. Alors ça, on sait que le peuple d'Israël, dans son majorité, en tant que nation, n'a pas reconnu en Jésus, le fils de David, et lui a refusé le trône, en quelque sorte. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il n'en sera pas toujours ainsi. Il règnera sur l'âme. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. On peut, avec Marie, avec Zacharie et Élisabeth, s'enthousiasmer qu'un jour, Jésus va régner à Jérusalem sur toutes les tribus de Jacob, comme il est dit. Mais on sait, on l'a vu dans cette prophétie, il régnera jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, est-ce que cette histoire vous touche? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est vraie? La question est surtout, est-ce que vous y croyez? Est-ce que je crois dans cette histoire? Est-ce que elle réveille en nous, dans notre cœur, de la joie, de l'enthousiasme. Et on n'est qu'au début de l'histoire. On n'est qu'au début et aux premières, la première page de l'histoire de Jésus. Alors on va prier. Notre Père Céleste, nous sommes émerveillés devant ce que tu as accompli, tout ce long temps de silence. Et puis tout à coup, c'est une explosion de lumière et de joie, tu interviens, et ça change tout. Et les choses bougent, et les choses changent. Apprends-nous, Seigneur, à être patient. Apprends-nous à te faire confiance, à être des maris qui ne discutent pas ce que dit le Seigneur, à être des Zacharie, des Élisabeth qui s'appliquent à une vie pieuse, agréable à Dieu. Même s'il y a de l'opprobre à porter derrière cela et des moqueries, Seigneur, un jour, tu es intervenu pour eux. Un jour, tu interviendras aussi pour nous. Un jour, l'histoire va se mettre en marche aussi pour nous. Le jour où tu reviendras. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci parce que nous avons le privilège d'être placés après la croix, à avoir vu toute son œuvre, à avoir vu s'accomplir toutes ses prophéties et à avoir les textes jusqu'à la dernière page de notre Bible. Élisabeth et Zacharie n'avaient pas tout ça, Marie non plus, mais ils se sont réjouis. Et nous aussi, on veut se réjouir de ton salut, de ce plan merveilleux, de l'incarnation de ton Fils, se réjouir comme se réjouissent les enfants, Seigneur, pour glorifier ton nom. Par Jésus. Amen.